Chapitre 8 De l'exil. Parmi toutes les attributions de l'autorité, l'une des plus favorables à la tyrannie, c'est la faculté d'exiler sans jugement. On avait présenté avec raison les lettres de cachet de l'ancien régime comme l'un des motifs les plus pressants pour faire une révolution en France. Et c'était Bonaparte, l'élu du peuple, qui, foulant aux pieds tous les principes en faveur desquels le peuple s'était soulevé, s'arrogeait le pouvoir d'exiler quiconque lui déplaisait un peu, et d'emprisonner, sans que les tribunaux s'en mêlassent, quiconque lui déplairait davantage. Je comprends, je l'avoue, comment les anciens courtisans, en grande partie, se sont ralliés au système politique de Bonaparte. Ils n'avaient qu'une concession à lui faire, celle de changer de maître. Mais les républicains, que le gouvernement de Napoléon devait heurter dans chaque parole, dans chaque acte, dans chaque décret, comment pouvaient-ils se prêter à sa tyrannie ? Un nombre très considérable d'hommes et de femmes de diverses opinions ont subi ces décrets d'exil, qui donnent au souverain de l'État une autorité plus absolue encore que celle même qui peut résulter des emprisonnements illégaux. Car il est plus difficile d'user d'une mesure violente que d'un genre de pouvoir qui, bien que terrible au fond, a quelque chose de bénin dans la forme. L'imagination s'attache toujours à l'obstacle insurmontable. On a vu des grands hommes, Thémistocle, Cicéron, Bolingbroke, profondément malheureux de l'exil. Et Bolingbroke en particulier déclare dans ses écrits que la mort lui paraît moins redoutable. Éloigner un homme ou une femme de Paris, les envoyer, ainsi qu'on le disait alors, respirer l'air de la campagne, c'était désigner une grande peine, avec des expressions si douces que tous les flatteurs du pouvoir la tournaient facilement en dérision. Cependant, il suffit de la crainte d'un tel exil pour porter à la servitude tous les habitants de la ville principale de l'Empire. Les échafauds peuvent à la fin réveiller le courage, mais les chagrins domestiques de tout genre, résultat du bannissement, affaiblissent la résistance et porte seulement à redouter la disgrâce du souverain qui peut vous infliger une existence si malheureuse. L'on peut volontairement passer sa vie hors de son pays, mais lorsqu'on y est contraint, on se figure sans cesse que les objets de notre affection peuvent être malades, sans qu'il soit permis d'être auprès d'eux, sans qu'on puisse jamais peut-être les revoir. Les affections de choix, souvent même celles de famille, les habitudes de société, les intérêts de fortune, tout est compromis. Et ce qui est plus cruel encore, tous les liens se relâchent, et l'on finit par être étranger à sa patrie. Souvent j'ai pensé, pendant les 12 années d'exil auxquelles Napoléon m'a condamné, qu'il ne pouvait sentir le malheur d'être privé de la France. Il n'avait point de souvenirs français dans le cœur. Les rochers de la Corse lui retraçaient seuls les jours de son enfance. Mais la fille de M. Necker était plus française que lui. Je renvoie à un autre ouvrage, dont plusieurs morceaux sont déjà écrits, toutes les circonstances de mon exil et des voyages jusqu'aux confins de l'Asie qui en ont été la suite. Mais comme je me suis presque interdit les portraits des hommes vivants, je ne pourrais donner à une histoire individuelle le genre d'intérêt qu'elle doit avoir. Maintenant, il ne me convient de rappeler que ce qui doit servir au plan général de ce livre. Je devinais plus vite que d'autres, et je m'en vante, le caractère et les desseins tyranniques de Bonaparte. Les véritables amis de la liberté sont éclairés à cet égard, par un instinct qui ne les trompe pas. Mais ce qui rendait, dans les commencements du consulat, ma position plus cruelle, c'est que la bonne compagnie de France croyait voir dans Bonaparte celui qui la préservait de l'anarchie ou du jacobinisme. Ainsi donc elle blâma fortement l'esprit d'opposition que je montrais contre lui. Quiconque prévoit en politique le lendemain excite la colère de ceux qui ne conçoivent que le jour même. J'oserais donc le dire, il me fallait plus de force encore pour supporter la persécution de la société que pour m'exposer à celle du pouvoir. J'ai toujours conservé le souvenir d'un de ces supplices de salon, s'il est permis de s'exprimer ainsi, que les aristocrates français, quand cela leur convient, savent si bien infliger à ceux qui ne partagent pas leurs opinions. Une grande partie de l'ancienne noblesse s'était ralliée à Bonaparte. Les uns, comme on l'a vu depuis, pour reprendre leurs habitudes de courtisans. Les autres, espérant alors que le premier consul ramènerait l'ancienne dynastie. L'on savait que j'étais très prononcé contre le système de gouvernement que suivait et que préparait Napoléon. Et les partisans de l'arbitraire nommaient, suivant leur coutume, opinions antisociales, celles qui tendent à relever la dignité des nations. Si l'on rappelait à quelques émigrés rentrés sous le règne de Bonaparte, avec quelle fureur ils blâmaient alors les amis de la liberté, toujours attachés au même système. Peut-être apprendraient-ils l'indulgence en se ressouvenant de leurs erreurs. Je fus la première femme que Bonaparte exila. Mais bientôt après, il en bannit un grand nombre d'opinions opposées. Une personne très intéressante, entre autres, la duchesse de Chevreuse, est morte du serrement de cœur que son exil lui a causé. Elle ne put obtenir de Napoléon, lorsqu'elle était mourante, la permission de retourner une dernière fois à Paris pour consulter son médecin et revoir ses amis. D'où venait ce luxe, en fait, de méchanceté, si ce n'est d'une sorte de haine contre tous les êtres indépendants? Et comme les femmes, d'une part, ne pouvaient servir en rien ces desseins politiques, et que de l'autre, elles étaient moins accessibles que les hommes aux craintes et aux espérances dont le pouvoir est dispensateur, elles lui donnaient de l'humeur comme des rebelles, et il se plaisait à leur dire des choses blessantes et vulgaires. Il haïssait autant l'esprit de chevalerie qu'il recherchait l'étiquette. C'était faire un mauvais choix parmi les anciennes mœurs. Il lui restait aussi, de ses premières habitudes pendant la Révolution, une certaine antipathie jacobine contre la société brillante de Paris, sur laquelle les femmes exerçaient beaucoup d'ascendant. Il redoutait en elle l'art de la plaisanterie, qui, l'on doit en convenir, appartient particulièrement aux Françaises. Si Bonaparte avait voulu s'en tenir au superbe rôle de grand général et de premier magistrat de la République, il aurait plané de toute la hauteur du génie au-dessus des petits traits acérés de l'esprit de salon. Mais quand il avait le dessein de se faire roi parvenu, bourgeois gentilhomme sur le trône, il s'exposait précisément à la moquerie du bon ton, et il ne pouvait la comprimer, comme il l'a fait, que par l'espionnage et la terreur. Bonaparte voulait que je le louasse dans mes écrits. Non assurément qu'un éloge de plus eût été remarqué dans la fumée d'encens dont on l'environnait. Mais, comme j'étais positivement le seul écrivain connu par les Français, qui eût publié sous son règne sans faire mention en rien de sa gigantesque existence, cela l'importunait, et il finit par supprimer mon ouvrage sur l'Allemagne avec une incroyable fureur. Jusqu'alors, ma disgrâce avait consisté seulement dans l'éloignement de Paris. Mais depuis, on m'interdit tout voyage, on me menaça de la prison pour le reste de mes jours. Et la contagion de l'exil, invention digne des empereurs romains, était l'aggravation la plus cruelle de cette peine. Ceux qui venaient voir les bannis s'exposaient au bannissement à leur tour. La plupart des Français que je connaissais me fuyaient comme une pestiférée. Quand je n'en souffrais pas trop, cela me semblait une comédie, et de la même manière que les voyageurs en quarantaine jettent par malice leurs mouchoirs aux passants pour les obliger à partager l'ennui du lazaret, lorsqu'il m'arrivait de rencontrer, par hasard, dans les rues de Genève, un homme de la cour de Bonaparte, j'étais tenté de lui faire peur avec mes politesses. Mon généreux ami, M. Mathieu de Montmorency, était venu me voir à Copé. Il y reçut, 4 jours après son arrivée, une lettre de cachet qui l'exilait pour le punir d'avoir donné la consolation de sa présence à une amie de 25 années. Je ne sais ce que je n'aurais pas fait dans ce moment pour éviter une telle douleur. Dans le même temps, Madame Récamier, qui n'avait avec la politique d'autre rapport que son intérêt courageux pour les proscrits de toutes les opinions, vint aussi me voir à Copé, où nous nous étions déjà plusieurs fois réunis. Et, le croirait-on, la plus belle femme de France, une personne qui, à ce titre, aurait trouvé partout des défenseurs, fut exilée parce qu'elle était venue dans le château d'une amie malheureuse, à 150 lieues de Paris. Cette coalition de 2 femmes établies sur le bord du lac de Genève parut trop redoutable au maître du monde, et il se donna le ridicule de les persécuter. Mais il avait dit une fois, « La puissance n'est jamais ridicule. » Et certes, il a bien mis à l'épreuve cette maxime. Combien n'a-t-on pas vu de familles divisées par la frayeur que causaient les moindres rapports avec les exilés? Dans le commencement de la tyrannie, quelques actes de courage se font remarquer, mais par degrés, le chagrin altère les sentiments, les contrariétés fatiguent. L'on vient à penser que les disgrâces de ses amis sont causées par leurs propres fautes. Les sages de la famille se rassemblent pour dire qu'il ne faut pas trop communiquer avec Madame ou Monsieur un tel. Leurs excellents sentiments, assure-t-on, ne sauraient se mettre en doute, mais leur imagination est si vive. En vérité, l'on proclamerait volontiers tous ces pauvres proscrits de grands poètes, à condition que leur imprudence ne permît pas de les voir ni de leur écrire. Ainsi, l'amitié, l'amour même, se glace dans tous les cœurs. Les qualités intimes tombent avec les vertus publiques. On ne s'aime plus entre soi, après avoir cessé d'aimer la patrie. Et l'on apprend seulement à se servir d'un langage hypocrite, qui contient le blâme doucereux des personnes en défaveur, l'apologie adroite des gens puissants, et la doctrine cachée de l'égoïsme. Bonaparte avait plus que tout autre le secret de faire naître ce froid isolement, qui ne lui présentait les hommes qu'un à un et jamais réunis. Il ne voulait pas qu'un seul individu de son temps existât par lui-même. Qu'on se mariât, qu'on eût de la fortune, qu'on choisît un séjour, qu'on exerçât un talent, qu'une résolution quelconque se prît sans sa permission. Et chose singulière, il entrait dans les moindres détails des relations de chaque individu, de manière à réunir l'empire du conquérant à une inquisition de commérage, s'il est permis de s'exprimer ainsi, et de tenir entre ses mains les fils les plus déliés comme les chaînes les plus fortes. La question métaphysique du libre arbitre de l'homme était devenue très inutile sous le règne de Bonaparte, car personne ne pouvait plus suivre, en rien, sa propre volonté, dans les plus grandes comme dans les plus petites circonstances. Chapitre 9. Des derniers jours de M. Necker. Je ne parlerai point du sentiment que m'a laissé la perte de mon père, si ce n'était pas un moyen de plus de le faire connaître. Quand les opinions politiques d'un homme d'État sont encore à beaucoup d'égards l'objet des débats du monde, il ne faut rien négliger pour donner au principe de cet homme la sanction de son caractère. Or, quelle plus grande garantie peut-on en offrir que l'impression qu'il a produite sur les personnes le plus à portée de le juger? Il y a maintenant 12 années que la mort m'a séparé de mon père, et chaque jour mon admiration pour lui s'est accrue. Le souvenir que j'ai conservé de son esprit et de ses vertus me sert de point de comparaison pour apprécier ce que peuvent valoir les autres hommes. Et quoique j'aie parcouru l'Europe entière, jamais un génie de cette trempe, jamais une moralité de cette vigueur ne s'est offerte à moi. M. Necker pouvait être faible par bonté, incertain à force de réfléchir. Mais quand il croyait le devoir intéressé dans une résolution, il lui semblait entendre la voix de Dieu, et quoi qu'on pût tenter alors pour l'ébranler, il n'écoutait jamais qu'elle. J'ai plus de confiance encore aujourd'hui dans la moindre de ses paroles que je n'en aurais dans aucun individu existant, quelque supérieur qu'il pût être. Tout ce que m'a dit M. Necker est ferme en moi comme le rocher. Tout ce que j'ai gagné par moi-même peut disparaître. L'identité de mon être est dans l'attachement que je garde à sa mémoire. J'ai aimé qui je n'aime plus. J'ai estimé qui je n'estime plus. Le flot de la vie a tout emporté, excepté cette grande ombre qui est là sur le sommet de la montagne et qui me montre du doigt la vie à venir. Je ne dois de reconnaissance véritable sur cette terre qu'à Dieu et à mon Père. Tout le reste de mes jours s'est passé dans la lutte. Lui seul y a répandu sa bénédiction. Mais combien n'a-t-il pas souffert ? La prospérité la plus brillante avait signalé la moitié de sa vie. Il était devenu riche. Il avait été nommé Premier ministre de France. L'attachement sans borne des Français l'avait récompensé de son dévouement pour eux. Pendant les 7 années de sa première retraite, ses ouvrages avaient été placés au premier rang de ceux des hommes d'État, et peut-être était-il le seul qui se fût montré profond dans l'art d'administrer un grand pays, sans s'écarter jamais de la moralité la plus scrupuleuse, et même de la délicatesse la plus pure. Comme écrivain religieux, il n'avait jamais cessé d'être philosophe. Comme écrivain philosophe, il n'avait jamais cessé d'être religieux. L'éloquence ne l'avait pas entraîné au-delà de la raison. Et la raison ne le privait pas d'un seul mouvement vrai d'éloquence. À ses grands avantages, il avait joint les succès les plus flatteurs en société. Madame du Deffand, la femme de France, à qui l'on reconnaissait la conversation la plus piquante, écrivit qu'elle n'avait point rencontré d'homme plus aimable que M. Necker. Il possédait aussi ce charme, mais il ne s'en servait qu'avec ses amis. Enfin, en 1789, l'opinion universelle des Français était que jamais un ministre n'avait porté plus loin tous les genres de talents et de vertus. Il n'est pas une ville, pas un bourg, pas une corporation en France dont nous n'ayons des adresses qui expriment ce sentiment. Je transcris ici, entre 1000 autres, celle qui fut écrite à la République de Genève par la ville de Valence. Messieurs les syndics, dans l'enthousiasme de la liberté qui embrase toute la nation française et qui nous pénètre de reconnaissance pour les bontés de notre auguste monarque, nous avons pensé que nous vous devions un tribut de notre gratitude. C'est dans le sein de votre République que M. Necker a pris le jour. C'est au foyer de vos vertus publiques que son cœur s'est formé dans la pratique de toutes celles dont il nous a donné le touchant spectacle. C'est à l'école de vos bons principes qu'il a puisé cette douce et consolante morale qui fortifie la confiance, inspire le respect, prescrit l'obéissance pour l'autorité légitime. C'est encore parmi vous, messieurs, que son âme a acquis cette trempe ferme et vigoureuse dont l'homme d'État a besoin quand il se livre avec intrépidité à la pénible fonction de travailler au bonheur public. Pénétré de vénération pour tant de qualités différentes, dont la réunion dans M. Necker exalte notre admiration, nous croyons devoir aux citoyens de la ville de Genève des témoignages publics de notre reconnaissance pour avoir formé dans son sein un ministre aussi parfait sous tous les rapports. Nous désirons que notre lettre soit consignée dans les registres de la République pour être un monument durable de notre vénération pour votre respectable concitoyen. Hélas, aurait-on prévu que tant d'admiration serait suivie de tant d'injustices, qu'on reprocherait des sentiments d'étranger à celui qui a chéri la France avec une prédilection presque trop grande, qu'un parti l'appellerait l'auteur de la Révolution parce qu'il respectait les droits de la nation, et que les meneurs de cette nation l'accuserait d'avoir voulu la sacrifier au maintien de la monarchie. Ainsi, dans d'autres temps, je me plais à le répéter, le chancelier de l'hôpital était menacé par les catholiques et les protestants tour à tour. Ainsi l'on aurait vu Sully succomber sous les haines de parti, si la fermeté de son maître ne l'avait soutenu. Mais aucun de ces deux hommes d'État n'avait cette imagination du cœur qui rend accessible à tous les genres de peine. M. Necker était calme devant Dieu, calme aux approches de la mort, parce que la conscience seule parle dans cet instant. Mais lorsque les intérêts de ce monde l'occupaient encore, il n'est pas un reproche qui ne l'ait blessé, pas un ennemi dont la malveillance ne l'ait atteint, pas un jour pendant lequel il ne se soit 20 fois interrogé lui-même, tantôt pour se faire un tort des maux qu'il n'avait pu prévenir, tantôt pour se placer en arrière des événements et peser de nouveau les différentes résolutions qu'il aurait pu prendre. Les jouissances les plus pures de la vie étaient empoisonnées pour lui par les persécutions inouïes de l'esprit de parti. Cet esprit de parti se montrait jusque dans la manière dont les émigrés, dans le temps de leur détresse, s'adressaient à lui pour demander des secours. Plusieurs, en lui écrivant à ce sujet, s'excusaient de ne pouvoir aller chez lui, parce que les principaux d'entre eux le leur avaient défendu. Ils jugeaient bien du moins de la générosité de M. Necker, quand ils croyaient que cette soumission à l'impertinence de leur chef ne le détournerait pas de leur rendre service. Parmi les inconvénients de l'esclavage de la presse, il y avait encore que les jugements sur la littérature étaient entre les mains du gouvernement. Il en résultait que, par l'intermédiaire des journalistes, la police disposait, au moins momentanément, de la fortune littéraire d'un écrivain, comme d'un autre côté, elle délivrait des permissions pour l'entreprise des jeux de hasard. Les écrits de M. Necker, pendant les derniers temps de sa vie, n'ont donc point été jugés en France avec impartialité. Et c'est une peine de plus qu'il a supportée dans sa retraite. L'avant-dernier de ses ouvrages, intitulé « Cours de morale religieuse », et je crois pouvoir l'affirmer, un des livres de piété les mieux écrits, les plus forts de pensée et d'éloquence dont les protestants puissent se vanter. Et souvent, je l'ai trouvé dans les mains de personnes que les peines du cœur avaient atteintes. Toutefois, les journaux sous Bonaparte n'en firent presque pas mention, et le peu qu'on en dit n'en donnait aucune idée. Il y a eu de même, en d'autres pays, quelques exemples de chefs-d'œuvre littéraires, qui n'ont été jugés que longtemps après la mort de leurs auteurs. Cela fait mal de penser que celui qui nous fut si cher a été privé même du plaisir que ses talents, comme écrivain, lui méritaient incontestablement. Il n'a point vu le jour de l'équité luire pour sa mémoire, et sa vie a fini l'année même où Bonaparte allait se faire empereur, c'est-à-dire dans une époque où aucun genre de vertu n'était en honneur en France. La délicatesse de son âme était telle que la pensée qui le tourmentait pendant sa dernière maladie, c'était la crainte d'avoir été la cause de mon exil, et je n'étais pas près de lui pour le rassurer. Il écrivit à Bonaparte, d'une main affaiblie, pour lui demander de me rappeler quand il ne serait plus. J'envoyai cette requête sacrée à l'empereur. Il n'y répondit point. La magnanimité lui a toujours paru de l'affectation, et il en parlait assez volontiers comme d'une vertu de mélodrame. S'il avait pu connaître l'ascendant de cette vertu, il eût été tout à la fois meilleur et plus habile. Après tant de douleurs, après tant de vertus, la puissance d'aimer semblait s'être accrue dans mon père, à l'âge où elle diminue chez les autres hommes. Et tout annonçait en lui, quand il a fini de vivre, le retour vers le ciel. Chapitre 10. Résumé des principes de M. Necker en matière de gouvernement. On a souvent dit que la religion était nécessaire au peuple, et je crois facile de prouver que les hommes d'un rang élevé en ont plus besoin encore. Il en est de même de la morale dans ses rapports avec la politique. On a cessé de répéter qu'elle convenait aux particuliers et non aux nations. Il est au contraire vrai que c'est au gouvernement surtout que les principes fixes sont applicables. L'existence de tel ou tel individu étant passagère, il arrive quelquefois qu'une mauvaise action lui sert pour un moment, dans une conjoncture où son intérêt personnel est compromis. Mais les nations étant durables, elles ne sauraient s'affranchir des lois générales et permanentes de l'ordre intellectuel, sans marcher à leur perte. L'injustice, qui peut servir à un homme par exception, est toujours nuisible aux successions d'hommes dont le sort rentre forcément dans la règle universelle. Mais ce qui a donné quelque crédit à la maxime infernale qui place la politique au-dessus de la morale, c'est qu'on a confondu les chefs de l'État avec l'État lui-même. Or, ces chefs ont souvent trouvé qu'il leur était plus commode et plus avantageux de se tirer à tout prix d'une difficulté présente, et ils ont mis en principe les mesures que leur égoïsme ou leur incapacité leur ont fait prendre. Un homme embarrassé dans ses affaires établirait volontiers en théorie que d'emprunter à usure est le meilleur système de finances qu'on puisse adopter. Or, l'immoralité en tout genre est aussi un emprunt à usure. Elle sauve pour le moment et ruine plus tard. M. Necker, pendant son premier ministère, n'était point en mesure de songer à l'établissement d'un gouvernement représentatif. En proposant les administrations provinciales, il voulait mettre une borne à la puissance des ministres et donner de l'influence aux hommes éclairés et aux riches propriétaires de toutes les parties de la France. La première maxime de M. Necker, en fait de gouvernement, était d'éviter l'arbitraire et de limiter l'action ministérielle dans tout ce qui n'est pas nécessaire au maintien de l'ordre. Un ministre qui veut tout faire tout ordonné et qui est jaloux du pouvoir comme d'une jouissance personnelle, convient aux cours, mais non aux nations. Un homme de génie, quand par hasard il se trouve à la tête des affaires publiques, doit travailler à se rendre inutile. Les bonnes institutions réalisent et maintiennent les hautes pensées qu'un individu, quel qu'il soit, ne peut mettre en œuvre que passagèrement. À la haine de l'arbitraire, M. Necker joignait un grand respect pour l'opinion, un profond intérêt pour cet être abstrait, mais réel, qu'on appelle le peuple, et qui n'a pas cessé d'être à plaindre, quoiqu'il se soit montré redoutable. Il croyait nécessaire d'assurer à ce peuple des lumières et de l'aisance, deux bienfaits inséparables. Il ne voulait point qu'on sacrifiât la nation aux castes privilégiées. Mais il était d'avis cependant qu'on transigeât avec les anciennes coutumes, à cause des nouvelles circonstances. Il croyait à la nécessité des distinctions dans la société, afin de diminuer la rudesse du pouvoir par l'ascendant volontaire de la considération. Mais l'aristocratie, telle qu'il la concevait, avait pour but d'exciter l'émulation de tous les hommes de mérite. M. Necker haïssait les guerres d'ambition, appréciait très haut les ressources de la France, et croyait qu'un tel pays, gouverné par la sagesse d'une véritable représentation nationale, et non par les intrigues des courtisans, n'avait, au milieu de l'Europe, rien à désirer ni à craindre. Quelque belle que fût la doctrine de M. Necker, dira-t-on, puisqu'il n'a pas réussi, elle n'était donc pas adaptée aux hommes tels qu'ils sont. Il se peut qu'un individu n'obtienne pas du ciel la faveur d'assister lui-même au triomphe des vérités qu'il proclame. Mais en sont-elles moins pour cela des vérités? Quoiqu'on ait jeté Galilée dans les prisons, les lois de la nature, découvertes par lui, n'ont-elles pas été depuis généralement reconnues? La morale et la liberté sont aussi sûrement les seules bases du bonheur et de la dignité de l'espèce humaine que le système de Galilée et la véritable théorie des mouvements célestes. Considérez la puissance de l'Angleterre. D'où lui vient-elle? De ses vertus et de sa constitution. Supposez un moment que cette île, maintenant si prospère, fût privée tout à coup de ses lois, de son esprit public, de la liberté de la presse et du Parlement, qui tire sa force de la nation et lui rend la sienne à son tour. Comme les champs seraient desséchés, comme les ports deviendraient déserts, les agents des puissances absolues eux-mêmes ne pouvant plus obtenir les subsides de ce pays sans crédit et sans patriotisme, regretteraient la liberté, qui pendant si longtemps du moins leur a prêté ses trésors. Les malheurs de la Révolution sont résultés de la résistance irréfléchie des privilégiés à ce que voulaient la raison et la force. Cette question est encore débattue après 27 années. Les dangers de la lutte sont moins grands, parce que les partis sont plus affaiblis, mais l'issue en serait la même. M. Necker dédaignait le machiavélisme dans la politique, la charlatanerie dans les finances et l'arbitraire dans le gouvernement. Il pensait que la suprême habileté consiste à mettre la société en harmonie avec les lois silencieuses mais immuables auxquelles la divinité a soumis la nature humaine. On peut l'attaquer sur ce terrain, car il s'y placerait encore s'il vivait. Il ne se targuait point du genre de talent qu'il faut pour être un factieux ou un despote. Il avait trop d'ordre dans l'esprit et de paix dans l'âme pour être propre à ces grandes irrégularités de la nature qui dévorent le siècle et le pays dans lequel elles apparaissent. Mais s'il fut né anglais, je dis avec orgueil qu'aucun ministre ne l'eût jamais surpassé, car il était plus ami de la liberté que M. Pitt, plus austère que M. Fox, et non moins éloquent, non moins énergique, non moins pénétré de la dignité de l'État que Lord Chatham. Ah, que n'a-t-il pu, comme lui, prononcer ses dernières paroles dans le Sénat de la patrie, au milieu d'une nation qui sait juger, qui sait être reconnaissante, et dont l'enthousiasme, loin d'être le présage de la servitude, est la récompense de la vertu. Maintenant, retournons à l'examen du personnage politique, le plus en contraste avec les principes que nous venons de retracer, et voyons si lui-même aussi, Bonaparte, ne doit pas servir à prouver la vérité de ses principes, qui seul aurait pu le maintenir en puissance et conserver la gloire du nom français. Chapitre 11. Bonaparte empereur, la contre-révolution faite par lui. Lorsqu'à la fin du dernier siècle, Bonaparte se mit à la tête du peuple français, la nation entière souhaitait un gouvernement libre et constitutionnel. Les nobles, depuis longtemps hors de France, n'aspiraient qu'à rentrer en paix dans leur foyer. Le clergé catholique réclamait la tolérance, les guerriers républicains ayant effacé par leurs exploits l'éclat des distinctions nobiliaires. La race féodale des anciens conquérants respectait les nouveaux vainqueurs, et la révolution était faite dans les esprits. L'Europe se résignait à laisser à la France la barrière du Rhin et des Alpes, et il ne restait qu'à garantir ses biens, en réparant les maux que leur acquisition avait entraînés. Mais Bonaparte conçut l'idée d'opérer la contre-révolution à son avantage, en ne conservant dans l'État, pour ainsi dire, aucune chose nouvelle que lui-même. Il rétablit le trône, le clergé et la noblesse. Une monarchie, comme l'a dit M. Pitt, sans légitimité et sans limite. Un clergé qui n'était que le prédicateur du despotisme. Une noblesse composée des anciennes et des nouvelles familles, mais qui n'exerçait aucune magistrature dans l'État et ne servait que de parure au pouvoir absolu. Bonaparte ouvrit la porte aux anciens préjugés, se flattant de les arrêter juste au point de sa toute-puissance. On a beaucoup dit que, s'il avait été modéré, il se serait maintenu. Mais qu'entend-on par modéré? S'il avait établi sincèrement et dignement la constitution anglaise en France, sans doute il serait encore empereur. Ses victoires le créaient prince. Il a fallu son amour de l'étiquette, son besoin de flatterie, les titres, les décorations et les chambellans, pour faire reparaître en lui le parvenu. Mais quelque insensé que fût son système de conquête, dès qu'il était assez misérable d'âme pour ne voir de grandeur que dans le despotisme, peut-être ne pouvait-il se passer de guerre continuelle, car que serait-ce qu'un despote sans gloire militaire dans un pays tel que la France? Pouvait-on opprimer la nation dans l'intérieur sans lui donner au moins le funeste dédommagement de dominer ailleurs à son tour? Le fléau de l'espèce humaine, c'est le pouvoir absolu, et tous les gouvernements français qui ont succédé à l'Assemblée constituante ont péri pour avoir cédé à cette amorce, sous un prétexte ou sous un autre. Au moment où Bonaparte voulut se faire nommer empereur, il crut à la nécessité de rassurer, d'une part, les révolutionnaires sur la possibilité du retour des Bourbons, et de prouver de l'autre aux royalistes qu'en s'attachant à lui, il rompait sans retour avec l'ancienne dynastie. C'est pour remplir ce double but qu'il commit le meurtre d'un prince du sang, le duc d'Enghien. Il passa le Rubicon du crime. Et de ce jour, son malheur fut écrit sur le livre du destin. un des machiavélistes de la cour de Bonaparte dit à cette occasion que cet assassinat était bien pis qu'un crime, puisque c'était une faute. J'ai, je l'avoue, un profond mépris pour tous ces politiques dont l'habileté consiste à se montrer supérieurs à la vertu. Qu'ils se montrent donc une fois supérieurs à l'égoïsme, cela sera plus rare et même plus habile. Néanmoins, ceux qui avaient blâmé le meurtre du duc d'Enghien comme une mauvaise spéculation eurent aussi raison même sous ce rapport. Les révolutionnaires et les royalistes, malgré la terrible alliance du sang innocent, ne se crurent point unis irrévocablement au sort de leur maître. Il avait fait de l'intérêt la divinité de ses partisans, et les adeptes de sa doctrine l'ont mis en pratique contre lui-même quand le malheur l'a frappé. Au printemps de 1804, après la mort du duc d'Enghien et l'abominable procès de Moreau et de Pichegru, lorsque tous les esprits étaient remplis d'une terreur qui pouvait en un instant se changer en révolte, Bonaparte fit venir chez lui quelques sénateurs pour leur parler négligemment et comme d'une idée sur laquelle il n'était pas encore fixé, de la proposition qu'on lui faisait de se déclarer empereur. Il passa en revue les différents partis qu'on pouvait adopter pour la France. Une république, le rappel de l'ancienne dynastie, enfin la création d'une monarchie nouvelle, comme un homme qui se serait entretenu des affaires d'autrui et les aurait examinées avec une parfaite impartialité. Ceux qui causaient avec lui le contrariaient avec la plus énergique véhémence, toutes les fois qu'il présentait des arguments en faveur d'une autre puissance que la sienne. À la fin, Bonaparte se laissa convaincre. « Eh bien, dit-il, puisque vous croyez que ma nomination au titre d'empereur est nécessaire au bonheur de la France, prenez au moins des précautions contre ma tyrannie. Oui, je vous le répète, contre ma tyrannie. Qui sait si, dans la situation où je vais être, je ne serai pas tenté d'abuser du pouvoir. » Les sénateurs s'en allèrent attendris par cette candeur aimable, dont les conséquences furent la suppression du tribunat, tout bénin qu'il était alors. L'établissement du pouvoir unique du Conseil d'État, servant d'instrument dans la main de Bonaparte, le gouvernement de la police, un corps permanent d'espions, et dans la suite 7 prisons d'État, dans lesquelles les détenus ne pouvaient être jugés par aucun tribunal, leur sort dépendant uniquement de la simple décision des ministres. Afin de faire supporter une semblable tyrannie, il fallait contenter l'ambition de tous ceux qui s'engageraient à la maintenir. Les contributions de l'Europe entière y suffisaient à peine en fait d'argent. Aussi Bonaparte chercha-t-il d'autres trésors dans la vanité. Le principal mobile de la Révolution française était l'amour de l'égalité. L'égalité devant la loi fait partie de la justice et par conséquent de la liberté. Mais le besoin d'anéantir tous les rangs supérieurs tient aux petitesses de l'amour-propre. Bonaparte a très bien connu l'ascendant de ce défaut en France. Et voici comme il s'en est servi. Les hommes qui avaient pris part à la Révolution ne voulaient plus qu'il y eût des castes au-dessus d'eux. Bonaparte les a ralliés à lui en leur promettant les titres et les rangs dont ils avaient dépouillé les nobles. « Vous voulez l'égalité, leur disait-il, je ferai mieux encore, je vous donnerai l'inégalité en votre faveur. Messieurs de la Trémouille, de Montmorency, etc., seront légalement de simples bourgeois dans l'État. Pendant que les titres de l'Ancien Régime et les charges de cour seront possédés par les noms les plus vulgaires, si cela plaît à l'empereur. » Quelle bizarre idée! Et n'aurait-on pas cru qu'une nation, si propre à saisir les inconvenances, se serait livré aux rires inextinguibles des dieux d'Homère. En voyant tous ces républicains masqués en ducs, en comtes, en barons, et s'essayant à l'étude des manières des grands seigneurs, comme on répète un rôle de comédie. On faisait bien quelques chansons sur ces parvenus de toute espèce, rois et valets. Mais l'éclat des victoires et la force du despotisme ont tout fait passer, au moins pendant quelques années. Ces républicains, qu'on avait vu dédaigner les récompenses données par les monarques, n'avaient plus assez d'espace sur leurs habits pour y placer les larges plaques allemandes, russes, italiennes, dont on les avait affublées. Un ordre militaire, la couronne de fer ou la légion d'honneur, pouvait être accepté par des guerriers dont ces signes rappelaient les blessures et les exploits. Mais les rubans et les clés de chambellan, mais tout cet appareil des cours, convenait-il à des hommes qui avaient remué ciel et terre pour l'abolir? Une caricature anglaise représente Bonaparte découpant le bonnet rouge pour en faire un grand cordon de la Légion d'honneur. Quelle parfaite image de cette noblesse inventée par Bonaparte et qui n'avait à se glorifier que de la faveur de son maître. Les militaires français ne sont plus considérés que comme les soldats d'un homme, après avoir été les défenseurs de la nation. Ah, qu'ils étaient plus grands alors! Bonaparte avait lu l'histoire d'une manière confuse. Peu accoutumé à l'étude, il se rendait beaucoup moins compte de ce qu'il avait appris dans les livres que de ce qu'il avait recueilli par l'observation des hommes. Il n'en était pas moins resté dans sa tête un certain respect pour Attila et pour Charlemagne, pour les lois féodales et pour le despotisme de l'Orient, qu'il appliquait à tort et à travers, ne se trompant jamais toutefois sur ce qui servait instantanément à son pouvoir. Mais du reste, citant, blâmant, louant et raisonnant comme le hasard le conduisait, il parlait ainsi des heures entières, avec d'autant plus d'avantage que personne ne l'interrompait, si ce n'est par les applaudissements involontaires qui échappent toujours dans des occasions semblables. Une chose singulière, c'est que dans la conversation, plusieurs officiers bonapartistes ont emprunté de leur chef cet héroïque galimatia, qui véritablement ne signifie rien qu'à la tête de 800 000 hommes. Bonaparte imagina donc, pour se faire un empire oriental et carlovingien tout ensemble, de créer des fiefs dans les pays conquis par lui et d'en investir ses généraux ou ses principaux administrateurs. Il constitua des majorats, il décréta des substitutions. Il rendit à l'un le service de cacher sa vie sous le titre inconnu de duc de Rovigo. Et tout au contraire, en notant à MacDonald, à Bernadotte, à Masséna, les noms qu'ils avaient illustrés par tant d'exploits, il frauda, pour ainsi dire, les droits de la renommée et resta seul, comme il le voulait, en possession de la gloire militaire de la France. Ce n'était pas assez d'avoir avili le parti républicain en le dénaturant tout entier. Bonaparte voulut encore ôter aux royalistes la dignité qu'ils devaient à leur persévérance et à leur malheur. Il fit occuper la plupart des charges de sa maison par des nobles de l'ancien régime. Il flattait ainsi la nouvelle race en la mêlant avec la vieille, et lui-même aussi, réunissant les vanités d'un parvenu aux facultés gigantesques d'un conquérant, il aimait les flatteries des courtisans d'autrefois, parce qu'ils s'entendaient mieux à cet art que les hommes nouveaux, même les plus empressés. Chaque fois qu'un gentilhomme de l'ancienne cour rappelait l'étiquette du temps jadis, proposait une révérence de plus, une certaine façon de frapper à la porte de quelque antichambre, une manière plus cérémonieuse de présenter une dépêche, de plier une lettre, de la terminer par telle ou telle formule. Il était accueilli comme s'il avait fait faire des progrès au bonheur de l'espèce humaine. Le code de l'étiquette impériale est le document le plus remarquable de la bassesse à laquelle on peut réduire l'espèce humaine. Les machiavélistes diront que c'est ainsi qu'il faut tromper les hommes. Mais est-il vrai que de nos jours on trompe les hommes? On obéissait à Bonaparte, ne cessons de le répéter, parce qu'il donnait de la gloire militaire à la France. Que ce fût bon ou mauvais, c'était un fait, clair et sans mensonge. Mais toutes les farces chinoises qu'il faisait jouer devant son char de triomphe ne plaisaient qu'à ses serviteurs, qu'il aurait pu mener de 100 autres manières si cela lui avait convenu. Bonaparte a souvent pris sa cour pour son empire. Il aimait mieux qu'on le traitât comme un prince que comme un héros. Peut-être, au fond de son âme, se sentait-il encore plus de droit au premier de ses titres qu'au second. Les partisans des Stuarts, lorsqu'on offrait la royauté à Cromwell, s'appuyèrent sur les principes des Amis de la Liberté pour s'y opposer. Et ce n'est qu'à l'époque de la Restauration qu'ils reprirent la doctrine du pouvoir absolu. Mais au moins restèrent-ils fidèles à l'ancienne dynastie. Une grande partie de la noblesse française s'est précipitée dans les cours de Bonaparte et de sa famille. Lorsqu'on reprochait à un homme du plus grand nom de s'être fait chambellan d'une des nouvelles princesses. « Mais que voulez-vous » disait-il. Il faut bien servir quelqu'un. » Quelle réponse ! Et toute la condamnation des gouvernements fondée sur l'esprit de cour n'y est-elle pas renfermée ? La noblesse anglaise eut bien plus de dignité dans les troubles civils, car elle ne commit pas deux fautes énormes dont les gentilshommes français peuvent difficilement se disculper. L'une, de s'être réunis aux étrangers contre leur propre pays. L'autre, d'avoir accepté des places dans le palais d'un homme qui, d'après leur maxime, n'avait aucun droit au trône. Car l'élection du peuple, à supposer que Bonaparte pût s'en vanter, n'était pas à leurs yeux un titre légitime. Certes, il ne leur est pas permis d'être intolérant après de telles preuves de condescendance. Et l'on offense moins, ce me semble, l'illustre famille des Bourbons, en souhaitant des limites constitutionnelles à l'autorité du trône, qu'en ayant accepté des places auprès d'un nouveau souverain souillé par l'assassinat d'un jeune guerrier de l'ancienne race. La noblesse française qui a servi Bonaparte dans les emplois du palais prétendrait-elle y avoir été contrainte ? Bien plus de pétitions encore ont été refusées que de places données, et ceux qui n'ont pas voulu se soumettre au désir de Bonaparte à cet égard ne furent point forcés à faire partie de sa cour. Adrien et Mathieu de Montmorency, dont le nom et le caractère attiraient les regards, Elzéar de Sabran, le duc et la duchesse de Duras, plusieurs autres encore, quoique pas en grand nombre, n'ont point voulu des emplois offerts par Bonaparte, et bien qu'il fallût du courage pour résister à ce torrent qui emporte tout en France dans le sens du pouvoir, ces courageuses personnes ont maintenu leur fierté, sans être obligées de renoncer à leur patrie. En général, ne pas faire est presque toujours possible. Il faut que cela soit ainsi, puisque rien n'est une excuse pour agir contre ces principes. Il n'en est pas assurément des nobles français qui se sont battus dans les armées comme des courtisans personnels de la dynastie de Bonaparte. Les guerriers, quels qu'ils soient, peuvent présenter 1000 excuses, et mieux que des excuses, suivant les motifs qui les ont déterminés et la conduite qu'ils ont tenue. Car enfin, dans toutes les époques de la Révolution, il a existé une France. Et certes, les premiers devoirs d'un citoyen sont toujours envers sa patrie. Jamais homme n'a su multiplier les liens de la dépendance plus habilement que Bonaparte. Il connaissait mieux que personne les grands et les petits moyens du despotisme. On le voyait s'occuper, avec persévérance, de la toilette des femmes, afin que leurs époux, ruinés par leurs dépenses, fussent plus souvent obligés de recourir à lui. Il voulait aussi frapper l'imagination des Français par la pompe de sa cour. Le vieux soldat, qui fumait à la porte de Frédéric II, suffisait pour le faire respecter de toute l'Europe. Certainement, Bonaparte avait assez de talent militaire pour obtenir le même résultat par les mêmes moyens. Mais il ne lui suffisait pas d'être le maître. Il voulait encore être le tyran. Et pour opprimer l'Europe et la France, il fallait avoir recours à tous les moyens qui avilissent l'espèce humaine. Aussi, le malheureux n'y a-t-il que trop bien réussi. La balance des motifs humains pour faire le bien ou le mal est d'ordinaire en équilibre dans la vie, et c'est la conscience qui décide. Mais quand, sous Bonaparte, 1 milliard de revenus et 800 000 hommes armés pesaient en faveur des mauvaises actions, quand l'épée de Brennus était du même côté que l'or pour faire pencher la balance, quelle terrible séduction! Néanmoins, les calculs de l'ambition et de l'avidité n'auraient pas suffi pour soumettre la France à Bonaparte. Il faut quelque chose de grand pour remuer les masses, et c'était la gloire militaire qui enivrait la nation, tandis que les filets du despotisme étaient tendus par quelques hommes dont on ne saurait assez signaler la bassesse et la corruption. Ils ont traité de chimères les principes constitutionnels, comme l'auraient pu faire les courtisans des vieux gouvernements de l'Europe, dans les rangs desquels ils aspiraient à se placer. Mais le maître, ainsi que nous allons le voir, voulait encore plus que la couronne de France, et ne s'en est pas tenu au despotisme bourgeois dont ses agents civils auraient souhaité qu'il se contentât chez lui, c'est-à-dire chez nous.